Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce RTL Midi, nouvelle formule, 12h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Mais d'abord, donc l'information est jusqu'à 13h, vous le savez depuis hier, elle sera avec nous toute la saison, nous serons ensemble toute la saison. Bonjour Céline Landreau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, vous le disiez, la sobriété, maître mot de la rentrée. Le gouvernement demande à tous de faire des économies d'énergie, envisage même de baisser la tension sur nos lignes. Et pendant ce temps-là, la moitié de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. Pourquoi ? Le patron d'EDF met en cause l'État. On vous explique tout dans 10 minutes avec Bruno Combi, ingénieur en génie nucléaire. Un nouveau refus d'obtempérer, un nouveau drame dans le Nord. Un jeune de 23 ans a été tué par les forces de l'ordre la nuit dernière. Et puis de l'Élysée au studio de ciné, François Hollande se met au film d'animation.
RTL toujours plus proche de vous avec deux nouveaux rendez-vous d'ici votre journal de midi et demi.
D'abord, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous. Et aujourd'hui, direction le Taillon-Médoc en Gironde, ville ravagée par un épisode de grêle fin juin. Vous verrez que deux mois plus tard, certains sinistrés n'ont toujours pas de toit. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien avec cette nouvelle tendance, la démission silencieuse où quand faire le minimum devient une règle au travail. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée, on parlera BD mais aussi film d'animation avec les nouvelles aventures de Gulliver, film que l'on doit au président ukrainien Volodymyr Zelensky. La question du jour sur RTL.fr, démission silencieuse. Faites-vous, vous aussi, parfois, le strict minimum au travail, pas vous, Pascal?
Bien évidemment, pas. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Avant ça, la météo avec vous, Peggy Roche. Bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour, Céline. Bonjour à tous.
En un mot, Peggy, cet après-midi
Orageux dans l'Est et ce sera mieux à l'Ouest.
Bon, merci, Peggy. Météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Une nouvelle fois, un refus d'obtempérer vire au drame. Cette nuit, dans le Nord, à Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing, un homme de 23 ans a été tué par balle par les forces de l'ordre alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Franck Hanson.
Oui, il était 3h du matin dans une zone commerciale proche de la frontière belge. Un équipage de police s'approche d'une voiture à l'arrêt, faisait un équipée de fausses plaques d'immatriculation. C'est alors que le chauffeur démarre brusquement pour échapper au contrôle. L'un des fonctionnaires, touché à la jambe, parvient à ouvrir la portière côté conducteur, selon la procureure de Lille, et fait usage de son arme pour riposter. Un tir qui atteint le conducteur au thorax. Malgré l'intervention des secours, cet homme de 23 ans, originaire de Roubaix, est décédé sur place. Le passager, lui aussi déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue pour recel de vol et complicité de refus d'obtempérer. Une enquête a été ouverte, confiée à la PJ de Lille, pour éclaircir les circonstances du drame. L'agent de la BAC qui a tiré est toujours interrogé par ses collègues de l'IGPN. Selon nos informations, ce policier arrivé récemment dans ce service du commissaire Tourcoing est un agent expérimenté qui n'avait jusque-là jamais fait parler de lui.
Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France, un peu plus de 3 semaines après le rodéo sauvage de Pontoise, lors duquel 2 enfants de 7 et 11 ans avaient été grièvement blessés. On apprend que les proches du motard, ceux qui vivaient avec lui dans un logement social, ont été expulsés, 9 personnes au total. Le motard, un jeune majeur, avait lui été arrêté et écroué.
On l'a dit, on le redit, on le redira, sobriété, c'est le maître mot de cette rentrée.
Et l'exécutif le répète à l'envi, en appelant particuliers, entreprises, à faire des efforts en pleine crise énergétique. Et alors qu'aujourd'hui encore, le géant russe Gazprom prévient qu'il va réduire une fois de plus ses livraisons de gaz, eh bien face au risque de pénurie, le gouvernement dévoile sa stratégie, Virginie Garin. Plusieurs pistes pour passer l'hiver sans trop de dégâts.
Alors, en fait, la France a suffisamment de stocks de gaz pour passer un hiver normal. Mais en cas de pic de froid, ça ne suffira pas. Donc, il faut s'organiser de 3 façons, explique le gouvernement. D'abord, la chasse au gaspillage pour tout le monde, entreprises et particuliers, réduire de 10% notre consommation d'électricité et de gaz en éteignant les lumières inutiles ou en réduisant le chauffage d'un degré. Autre méthode, l'effacement. Alors là, on vous coupe le courant de temps en temps pendant 2 heures. Ça sous-entend de signer un contrat avec votre opérateur, vous payerez d'ailleurs moins cher, il vous prévient et c'est comme si vous avez une panne d'électricité, 2 heures maximum, ça n'a pas d'impact sur le contenu de votre frigo. Troisième méthode, baisser la tension de 230 volts actuellement à 220 volts. Alors chez vous, ça veut dire une lumière un peu moins forte, votre grille-pain va mettre quelques secondes de plus pour griller votre tartine. Un petit impact, explique la ministre de l'Énergie, pour de grosses économies nationales.
Merci beaucoup Virginie Garin. Et en pleine crise énergétique, comment expliquer que la moitié des réacteurs nucléaires français soient à l'arrêt? On vous dit tout dans une dizaine de minutes avec notre invité Bruno Combi, auteur du livre « Le nucléaire, avenir de l'écologie ». C'est une question. Et avant d'enfiler les pulls en laine, ce sont les cartables que les écoliers retrouveront jeudi. Rentrée scolaire marquée par les difficultés de recrutement des enseignants. Mais sur RTL ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a tenté de rassurer tout le monde. Malgré le renfort de 4000 enseignants contractuels formés en 4 jours seulement, il assure que cette rentrée ne sera pas catastrophique.
On ne devient pas prof en 4 jours, mais nous prolongeons ces jours-là par de la formation tout au long de l'année, par du tutorat. Et encore une fois, la plupart de ces enseignants contractuels ont déjà une expérience. Ils sont recrutés à Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 dans l'Académie de Versailles. La moitié d'entre eux sont à Bac plus 5. Nous avons des professeurs qui savent faire, que nous suivons et qui sont de surcroît très motivés. Ça n'est pas du bricolage et encore une fois, ça représente un pourcentage très faible de la population générale des enseignants. Nous faisons au mieux dans des conditions qui ne sont pas optimales, mais la rentrée se fera dans des conditions très convenables, je peux vous le garantir.
Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, avec Amandine Bégaud dans RTL Matin.
L'étranger à présent en Ukraine, la contre-offensive est lancée dans la région de Kherson, au sud du pays.
Une région où l'armée ukrainienne multiplie les actions pour reconquérir cette partie du territoire aujourd'hui contrôlée par les forces russes, Émilie Bojard.
Et oui, des combats seraient en cours dans la quasi-totalité de la région de Kherson. La tactique ukrainienne vise à cibler les lignes de réapprovisionnement russes pour affaiblir l'armée de Poutine qui est déjà sûrement sous-effectif dans cette région du sud de l'Ukraine. Les ponts au-dessus du fleuve Dniepr ont également été détruits. Les soldats ukrainiens avancent donc petit à petit autour de Kherson avec pour ambition de reprendre cette ville de 280 000 habitants occupée par les Russes depuis début mars. Les habitants ont été d'ailleurs appelés à se rendre dans les abris avec stock de nourriture et d'eau. Ce midi, Moscou assure avoir repoussé les soldats ukrainiens, mais la situation pour l'heure sur place reste très confuse.
Merci beaucoup, Émilie Bojard, pour RTL.
De l'Élysée au studio de cinéma, François Hollande se met au film d'animation.
Oui, l'ancien président de la République a prêté sa voix pour un long métrage, Silex and the City, inspiré de la série du même nom créée par le dessinateur Jules. Au casting également des comédiens plus expérimentés, dirons-nous, comme Guillaume Gallienne ou encore Bruno Solo. Mais d'après Jules, l'ex-locataire de l'Élysée n'a pas eu de mal à se glisser dans son nouveau rôle.
Contre toute attente, François Hollande s'est avéré un formidable comédien. Il est réputé pour avoir un sens de l'humour, une ironie particulière. Et là, ça a fait vraiment florès dans son apparition. Les indications, je dirais, de réalisation que je lui donnais, il les captait, ce qui fait que c'est allé assez vite. Et en général, on enregistre les gens un par un. Et là, exceptionnellement, on avait voulu faire marcher la magie, la chimie du couple François Hollande-Julie Gayet. Et du coup, ils se taquinaient, ils se lançaient des piques au fur et à mesure qu'ils enregistraient. Et je pense qu'il y a des choses qu'on va garder qui n'étaient pas forcément prévues dans le scénario, qui étaient des parts un petit peu d'impro, parce que ils étaient vraiment rigolos enregistrés ensemble.
On ne peut pas savoir quel personnage il va incarner.
Il ne sera ni un végétal, ni un minéral, mais il fera partie de la grande chaîne du vivant darwiniste. En tout cas, graphiquement, il se ressemblera. Et on le reconnaîtra immédiatement avant même qu'il ouvre la bouche.
Le dessinateur Jules, joint pour RTL par Monique Younes. La météo, à présent, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche. Bon, vous nous avez prévenu, il y aura des orages.
Exactement, Céline. Alors, surtout dans l'est du pays, entre la région PACA, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'aux Ardennes cet après-midi, avec une activité orageuse plus forte dans la partie sud. D'ailleurs, l'Ardèche et la Drôme sont en vigilance orange aux orages, donc prudence. Un peu d'instabilité orageuse également sur le relief des Pyrénées. Et puis, partout ailleurs, c'est un temps plus calme. Plus on ira vers l'ouest et plus les éclaircies seront belles. Un beau soleil même dans les plaines du sud-ouest. Les températures, elles sont en légère baisse cet après-midi, de 21 à 26 degrés près de la Manche, 27 à 31 sur la moitié nord. Et 29 à 33 degrés dans le sud.
Merci beaucoup, Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Exactement, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison. RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour, l'info au plus près de vous avec nos correspondants qui quadrillent la France. Et parmi eux, Philippe Demaria, que vous avez la chance de croiser en Aquitaine. Bonjour Philippe.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
Philippe, bonjour. Vous nous amenez ce midi au Taillon Médoc, ville de Gironde, oui, dévastée par un orage de grêle. C'était le 20 juin dernier, et deux mois après, donnez-nous des nouvelles du Taillon sinistré.
Alors écoutez, d'immenses toiles plastiques cachent toujours pudiquement des toitures déchiquetées par des grêlons qui n'avaient plus du tout, vous vous en souvenez, la taille réglementaire. Chantal a passé l'été avec ses bâches plastiques sur son toit, mais aussi dans sa maison, obturant les plafonds qui se sont écroulés. Son dossier d'assurance n'avance pas d'un pouce.
En fait, il n'y a plus beaucoup de plafonds, il reste des bâches.
Là, c'est le salon ?
Oui, tout le séjour et toute la cuisine. Et le cellier, ça tient par des planches. Je suis partie ce week-end, je suis rentrée hier soir. Le choc en ouvrant la porte, j'avais oublié pendant un week-end que j'avais plus de plafond. J'ai pas de retour d'assurance encore pour la maison. Mais le dossier est toujours à l'étude.
L'expert est passé ?
Oui, très vite. Ça traîne à l'assurance.
Vous les relancez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ben, en fait, ils mettent beaucoup de temps à traiter les dossiers. Vraiment inquiète. J'ai peur de la pluie. Il y a des bassines, là, vous voyez, qui sont prêtes au cas où. Donc, quand il pleut, j'ai peur que ça tombe. Très fatigant parce que, voilà, on dort pas. Je dors pas bien.
Chantal épuisée, plus de 30 000 euros de devis, mais Chantal n'a aucune visibilité sur le début des travaux.
Alors, situation bloquée, on l'a compris, et l'automne arrive. Ouais. Angoissant pour Chantal, vous avez rencontré des sinistrés un peu mieux lotis, Philippe.
Un peu mieux, heureusement, le pavillon de Carole, par exemple, toiture rutilante. La dernière fois que j'étais passé chez eux, donc en juin dernier, tout s'était effondré, notamment dans la chambre dans laquelle ils dormaient. C'était passé très très près de leur lit. Aujourd'hui, le moral est bien meilleur. Comment ça va ? On sent que vous avez plus le sourire ce matin.
Oui, parce que ça y est, le gros des travaux est fait. On a eu beaucoup de chance. Au niveau de l'assurance, ça a été très très bien. L'expert est venu très rapidement. Ça s'est enchaîné avec l'assurance, argent débloqué, couvreur trouvé. Enfin, tout s'est enchaîné, voilà.
Vous me montrez ?
Oui, on y va.
Alors ici, la dernière fois, ça coulait.
Et puis c'était tombé. Ben là, ça y est, le plaquiste a pu refaire tous les plafonds. Et puis les peintures, c'est en octobre. C'est pas urgent, on peut vivre, donc voilà. On respire et on aborde l'automne voilà, plus sereinement.
Plus sereinement, 1800 habitations en tout cas ont été impactées par la grêle au Taillant-Médoc. Un élu estime à seulement 20% les logements réparés et habitables comme chez Carole, 2 mois après le sinistre. Et majoritairement, toujours selon cet élu, en raison du retard pris par les compagnies d'assurance.
Merci beaucoup Philippe de Maria, correspondant de RTL en Aquitaine.
Une première pause dans cette édition et on va parler d'un sujet, j'ai envie de dire vieux comme le monde, c'est ceux qui ne font rien lorsqu'ils sont en train de travailler. Et aujourd'hui, on appelle ça la démission silencieuse. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Oui, on va essayer pour éviter la panne. On manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. Ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle. On nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi ? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12.
Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, hier devant le MEDEF, qui pointe clairement du doigt la responsabilité de l'État en pleine crise énergétique, alors que le gouvernement appelle, lui, sans cesse à la sobriété, que l'énergie risque de manquer cet hiver. Le constat est sans appel. La moitié des réacteurs nucléaires est à l'arrêt en France. Comment en est-on arrivé là ? Pour en parler avec nous, Bruno Combi, d'abord bonjour.
Bonjour.
Vous êtes polytechnicien, ingénieur en génie nucléaire et président de l'Association des écologistes pour le nucléaire. En studio également avec nous, Virginie Garin, bonjour.
Bonjour à tous.
Spécialiste aussi de ces questions d'environnement et d'énergie. On a entendu Jean-Bernard Lévy pointer du doigt la responsabilité de l'État. Bruno Combi, elle va si mal que ça la filière nucléaire en France ? Il faut sauver le soldat nucléaire, on pourrait le formuler comme ça ?
Et c'est vrai que...
Manifestement, on a un souci avec Monsieur Combi, donc on va peut-être cette question
la poser
à Virginie Garin.
Alors, il faut rappeler qu'on a 56 réacteurs nucléaires en France. Il y en a 32 qui sont à l'arrêt en ce moment. Il y en a 12.
C'est jamais arrivé.
À ce niveau-là, non.
Alors ça arrive, paraît-il, l'été.
Oui, alors il y en a 20 qui sont à l'arrêt pour maintenance. Donc ça, c'est normal, parce qu'une centrale nucléaire, il faut la réparer de temps en temps, elle ne produit pas toute l'année. Et puis il y en a 12 qui sont à l'arrêt parce qu'on a constaté en décembre, EDF a découvert, en faisant justement des contrôles de maintenance, a découvert des petites fissures sur des tuyaux dans le circuit de sécurité de refroidissement. Donc si ces petites fissures ne sont pas rebouchées, il peut y avoir des problèmes de fuite radioactive. Donc les travaux doivent absolument être faits. 12 réacteurs, c'est énorme. Et là encore, eh bien, visiblement, les travaux travaux ont pris du retard, donc il a fallu fermer 4 centrales pour 2 mois supplémentaires. Ce qui fait que cet hiver, on va se retrouver avec plus de la moitié du parc nucléaire en moins. Il va falloir trouver des idées.
Et il a raison, le PDG d'EDF, comme ça, de, même s'il ne nomme pas directement, mais enfin de pointer du doigt la responsabilité de l'État. Il y a eu un vrai défaut d'investissement sur ces centrales.
Alors, il y a eu l'État, puis il y a eu lui, quelque part. Alors, c'est vrai qu'hier, c'était assez surréaliste. Il était à côté de la ministre de l'Énergie. Il faisait ce discours au MEDEF. On avait l'impression qu'il en avait un peu gros sur la patate et qu'il livrait ses dernières cartouches.
On nous a dit, par exemple, on nous a dit, c'est qui le « on » ?
On nous a dit pour le fait de
que les centrales allaient devoir fermer et donc
c'est ce qu'il répète. On nous a dit que
oui, on nous a dit c'est Emmanuel Macron, c'est François Hollande avant.
En 2018,
ce sont tous les parlementaires qui ont voté une loi qui a dit il faut réduire le nucléaire en France, de faire passer sa part qui est aujourd'hui de 70% de notre électricité à 50% en 2035. Donc ça c'est une décision qui a été votée. Emmanuel Macron l'a confirmé et il a effectivement annoncé la fermeture de 14 réacteurs. Alors là où on peut être un petit peu critique du patron d'EDF, c'est que ces réacteurs, ils doivent fermer, mais en 2029. Donc, entre la situation là, de cet hiver prochain, et 2029, il y a un petit peu de temps pour voir venir. Voilà. Donc, d'ailleurs, chez Agnès Pannier-Runacher, ce matin, on ironisait un petit peu aussi. Il s'est peut-être un peu emballé. Mais il faut effectivement trouver des solutions, parce que le nucléaire ne va pas assurer notre électricité cet hiver.
Oui, si tous les réacteurs étaient en place, nous n'aurions pas de soucis énergétiques cet hiver.
Oui, mais ils ne le sont pas, Pascal.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais ils ne le sont pas parce qu'on a perdu visiblement notre expertise.
Alors, notre
expertise, ce que semble dire M. Lévy.
Oui,
c'est-à-dire qu'on n'a plus les personnes parce qu'on ne les a plus formées. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait abandonner le nucléaire. C'est ce que j'entends dans la voix de M. Lévy.
Pas seulement ces petites fissures qu'on a découvertes, c'est sur des centrales qui ont été construites il y a longtemps. Et cette panne, elle était improbable. Elle n'avait pas été prévue par les ingénieurs d'EDF. Là, on découvre qu'il y a un métal qui se fissure et qui met 12 centrales à l'arrêt. Ce qui montre quelque part, cet incident montre que le nucléaire n'est pas 100% fiable. Alors là, on ne parle pas de sécurité nucléaire, d'explosion nucléaire, de radiation. Là, on parle d'approvisionnement énergétique. Il n'est pas fiable, puisqu'on a 12 réacteurs à l'arrêt, d'où l'importance de faire ce qu'on appelle ce fameux mix énergétique.
C'est ça, de varier les sources d'énergie.
On a besoin du nucléaire, a dit encore ce matin la ministre de l'Énergie, on en a besoin, mais il faut aussi faire un peu plus de solaire, un peu plus d'éolien, un peu plus de biomasse, et puis surtout, et là on est en train de le redécouvrir en France, il faut faire des économies d'énergie, la fameuse sobriété qui va nous attendre tous cet hiver.
Alors on a fermé Fessenheim, je le rappelle, on n'a pas investi dans le nucléaire, on a abandonné notre souveraineté. Ça, il faut le dire. L'énergie nucléaire est non polluante, elle est moins chère et elle est quand même sécure. Il n'y a aucun incident majeur en France depuis 50 ans. Et malgré ça, pour des raisons idéologiques, parfois on a laissé tomber le nucléaire.
La souveraineté, on est aussi dépendant de l'uranium. Donc il faut aller chercher l'uranium et on ne le produit pas en Auvergne. Il est dans des pays qui sont dans des, comme le Niger, qui sont dans des situations géopolitiques un peu compliquées. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, Pascal, on a toujours ce débat tous les deux, mais il faut pas être ni noir ni blanc. Il faut un mix énergétique. Le soleil et le vent peuvent faire de l'énergie, donc pourquoi pas en profiter, mais pas faire que ça, évidemment.
Alors essayons d'être gris, peut-être, entre vous deux, avec Bruno Combi, puisque nous avons réussi à rétablir la ligne. Juste une question rapide, monsieur Combi. On parlait de tous ces réacteurs à l'arrêt aujourd'hui. Combien de temps il faudra pour qu'on puisse les utiliser à nouveau? Est-ce que ce sera bon pour cet hiver, pour la fin de l'hiver, le printemps? On a une idée de ça?
Eh bien, c'est l'objectif poursuivi. Il faut les remettre en route le plus vite possible. Il s'agit d'un programme de vérification, en fait, de l'état des tuyauteries. Donc, en principe, ça peut être fait assez rapidement d'ici l'hiver. Ce programme est en grande partie déjà bien avancé. Et le but est de reconnecter la totalité ou la quasi-totalité des réacteurs avant la période froide en hiver.
Eh bien, merci, Monsieur Combi, et merci à Virginie Garin, même si nous avons eu un souci de liaison avec Monsieur Combi. On va marquer une nouvelle pause et parler dans un instant de cette démission silencieuse que je vous annonçais il y a quelques secondes. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Travailler, oui, mais pas trop. C'est le nouveau credo, figurez-vous, des adeptes de la démission silencieuse. Ça, c'est un drôle de terme. On en parle donc ensemble avec Pierre Herbulot.
Avec Pierre Herbulot. Mais pour commencer, on va écouter ce petit son glané par Vincent Serrano sur le parvis du quartier d'affaires de la Défense. Écoutez.
On ne se sent pas assez valorisé, je pense. Et donc, du coup, bah, on On essaye de faire le minimum, ce pour quoi on est payé. Et tant qu'on n'a pas plus, tant qu'on nous donne pas plus, ben on va pas faire plus. Pour le coup, c'est vraiment le Covid aussi qui a accéléré le fait que je me rends compte que la vie, c'est pas le travail. Il y a des à côté et c'est important, la vie de famille, la vie privée, etc.
Luna, rencontrée par Vincent Serrano sur le parvis du quartier d'affaires parisien de la Défense et qui illustre donc cette démission silencieuse. Pascal, vous le promettez, on va en parler avec vous, Pierre Herbulot, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service économie ici à RTL qu'on ne présente plus. Et nous sommes en ligne également avec Philippe Queneau, vice-président de l'Association nationale des DRH. Pardon et bonjour monsieur.
Bonjour.
D'abord, Pierre, on va poser les choses avec vous. Qu'est-ce que c'est cette démission silencieuse? De quoi on parle?
Alors, c'est un concept qui nous vient des États-Unis. Ce serait l'idée de faire le strict minimum. On l'a entendu dans le son. Ça veut dire pas d'heure sup. Si je termine à 18h, je coupe mon ordinateur à 18h. Pas de missions qui ne sont pas dans ma fiche de poste. Je ne fais pas l'inventaire des stocks du magasin si je suis simplement caissier. Je ne consulte pas mes mails sur mon temps perso. Finalement, c'est faire son boulot, rien que son boulot, mais sans jamais se mettre en danger vis-à-vis du droit du travail. Il ne s'agit pas de procrastiner, d'arriver en retard ou de mettre de la mauvaise volonté à la tâche. C'est plutôt ne pas faire d'efforts supplémentaires, ne pas tout donner pour son entreprise en espérant une rétribution, j'allais dire, une augmentation ou une promotion.
Alors ça concerne qui? C'est générationnel? Parce que j'ai l'impression que ça a toujours existé, des gens qui sont des tire-au-flanc. On disait cela.
Les pieds dans le plat.
C'était ce qu'on disait, jadis. C'est un tire-au-flanc.
J'allais vous dire, depuis 10 jours, le hashtag Quiet Quitting, c'est cette démission silencieuse, fait un carton sur TikTok. C'est le réseau social des millennials de la génération Z, bref, des jeunes, des centaines de vidéos pour des millions de vues. C'est moins de 30 ans qui rejettent une culture d'entreprise, j'allais dire peut-être un peu vieillotte, l'idée qu'il faudrait quasiment vivre pour travailler plutôt que travailler pour vivre.
Philippe Queneau, on se tourne vers vous à présent. On vient d'avoir les explications de Pierre Herbulot sur cette nouvelle tendance. C'est quelque chose que vous constatez, vous, déjà dans les entreprises?
Non, alors si vous voulez, bien évidemment, il y a ce phénomène générationnel, même si je trouve toujours difficile d'opposer les générations. Plutôt que de parler de démission ou en tout cas de collaborateurs moyennement engagés, je pense plutôt qu'on a des collaborateurs qui sont qui sont dans l'entreprise, qui ont des envies d'évoluer, de progresser, et pas forcément à la vitesse à laquelle ils souhaitent. Donc il y a une espèce de décalage entre l'envie de grandir, l'envie de progresser, évidemment l'envie que la rémunération suive, et puis cette envie de se dire je peux pas partir du jour au lendemain parce que j'ai des engagements personnels, parce que encore une fois la souplesse du cadre législatif fait que on part pas comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est une espèce de mélange entre les deux, sachant encore une fois qu'il ne faut pas généraliser, puisque vous avez des entreprises dans lesquelles les choses se déroulent avec des collaborateurs qui sont engagés, totalement engagés. Donc voilà, c'est un phénomène. Alors je ne sais pas s'il vient exclusivement des États-Unis ou si on le trouve par ailleurs. En tout cas, d'une manière globale auprès de nos adhérents, je serais un tout petit peu plus nuancé.
Et comment réagissent les patrons?
En fait, la difficulté aujourd'hui, elle n'est pas tant d'avoir des gens qui ont envie de partir, mais elle est plutôt d'avoir la capacité de trouver des collaborateurs pour réaliser et pour remplir les jobs que nous avons à staffer. C'est plutôt ça le sujet.
Ça veut dire qu'il faut les rendre attractifs, pardon Pierre?
Oui, il faut rendre, encore une fois, il faut rendre les positions, les emplois.
Mais la meilleure attractivité, c'est le salaire. La difficulté aujourd'hui, c'est que les jeunes que je rencontre se plaignent d'abord d'une chose, c'est qu'ils sont mal payés. Et c'est vrai que les salaires sont très bas, notamment des jeunes. Quand t'as 25, 30 ans et que tu gagnes 2000 euros et que t'habites Paris, c'est quasiment impossible de vivre.
C'est clair qu'à niveau de la rémunération est une vraie question. C'est la principale. Je suis complètement d'accord avec vous.
Mais je suis obligé de vous le faire dire.
Non.
Parce qu'on tourne toujours autour du pot. Les jeunes, ils disent on est mal payés. Et ils ont raison.
Alors après, encore une fois, c'est une question de compétences, une question d'acquisition de compétences, de définition des fonctions et de la contribution de chacun. Moi, je n'ai jamais rencontré de collaborateurs qui étaient satisfaits de celle de leur rémunération. On a toujours envie de gagner plus, et c'est totalement légitime.
Le Covid y est pour beaucoup. Vous avez vu un vrai changement, quand même. Ça a été un point de bascule.
Je pense que le Covid a fait prendre conscience, et ce qui a été souligné dans le au début de l'entretien, le Covid a vraiment fait intégrer à tout le monde, alors jeunes voire moins, ont intégré le fait qu'on pouvait effectivement travailler de manière totalement différente. On pouvait travailler à la maison, on pouvait travailler dans un cadre différent, on pouvait travailler à distance. Donc là, probablement qu'il y a eu un certain nombre de questions pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a encore pas de réponse. On est encore dans cette acquisition, dans cette transformation du monde du travail tel qu'on l'a connu pendant cette période très troublée de Covid.
En fait, c'est le rééquilibrage tant pro, tant perso, finalement. Il y a eu une vague de démissions aussi, de vraies démissions sans précédent, entre la fin de l'année dernière et le début de la guerre en Ukraine. D'après les comptes d'RTL avec les chiffres de Bercy, c'était 4 démissions par minute en France entre fin 2021 et le début de cette année. Finalement, ce qu'on appelle la démission silencieuse, qui n'est pas une démission, on l'a bien compris, c'est l'autre conséquence. Je ne quitte pas mon poste, je fais simplement mon boulot pour gagner mes sous et pour profiter de mon temps perso.
Merci pour cet éclairage et puis cette expression peut-être que vous avez découverte à l'instant, démission silencieuse. Dans le temps, on disait tir au flanc, c'est une manière nouvelle de parler des choses. Il est 12h28, le journal dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi Nouvelle Formule, car désormais notre rendez-vous d'information de la mi-journée commence dès 12h, mais il y a des habitudes qui ne changent pas, et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
La famille de l'auteur du rodéo sauvage de Pontoise, expulsée de son logement social, le motard avait grièvement blessé 2 enfants début août. L'affaire Paul Pogba est le champion du monde qui assure avoir déjà payé une partie de l'argent réclamé par ses maîtres chanteurs. 4 patrons font faillite toutes les heures en France. Chiffres saisissants, qui sont-ils? Pourquoi? On vous explique tout. Et puis quand le fisc utilise les satellites pour traquer les baigneurs fraudeurs, ceux qui ne déclarent pas leur piscine, près de 1500 par exemple dans le seul département du Maine-et-Loire. Comment en font-ils? Pour quelle manne financière? On en parle à 12h40. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT Midi, avec 2 coups de cœur au programme, la BD RTL du mois, dernier week-end de janvier, signé à Bastien Vivès, et puis un film d'animation porté par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La question du jour sur RTL Midi, on vient d'en parler. Démission silencieuse, faites-vous parfois le strict minimum au travail?
Et on en parlera évidemment à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Appelez-nous au 3210, il y aura d'autres sujets. La rentrée scolaire, est-ce qu'elle vous inquiète? On pourra parler de l'affaire Pogba, bien sûr. Faut-il interdire les trottinettes électriques? C'est également un sujet. Et puis les Français sont-ils les plus sales? C'est une question qui va nous intéresser aussi.
La météo à la fin du journal avec Peggy, toute propre, Peggy Broche. Un indice quand même pour cet après-midi.
Cet après-midi, ce sera orageux dans l'Est et il fera beau dans l'Ouest.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.
C'était début août. 2 jeunes enfants de 7 et 11 ans renversés lors d'un rodéo urbain à Pontoise et gravement blessés. Le motard avait été écroué. Et ce matin, Vincent Derosier, on apprend que ses proches, ceux qui occupaient avec lui un logement social, ont été expulsés.
Oui, une dizaine de personnes délogées ce matin par les forces de l'ordre, de la famille et des proches. Mais le motif d'expulsion n'a pas de rapport, lui, direct avec le rodéo urbain. C'est ce que nous confirme la maire de Pontoise, Stéphanie Vanneuve.
C'est des impayés de loyers qui ont été constatés. Et donc, la préfecture a apporté le concours donc des forces de l'ordre pour procéder à l'exécution de cette décision de justice. Mais je précise d'emblée que nous aurions demandé, si ça n'avait pas existé, au bailleur d'engager une procédure d'expulsion pour trouble de jouissance, trouble dans le quartier, enfin manquer de quasiment tuer 2 enfants lors d'un rodéo sauvage sur une dalle piétonne. Je pense qu'il n'y a pas besoin de qualifier autrement, c'est même un euphémisme.
Voilà, et à l'instant, Gauthier Delambugard a pu recueillir pour RTL le témoignage de la sœur de Kenya, la petite fille renversée et qui va mieux aujourd'hui. Elle est soulagée, mais désolée pour la famille.
Bah, ça me fait de la peine pour leur famille, quoi. C'est un des leurs, donc pour nous, c'est toute la famille, mais le payer comme ça, de les exécuter de leurs habitats et tout, c'est toute la famille qui paye pour ça et tout.
Voilà, et on rappelle donc les faits, la famille expulsée pour impayé de loyer, et le motard, lui, n'est pas concerné puisqu'il est incarcéré.
Vincent Derosier pour RTL, un homme de 23 ans tué par un tir de police, c'était la nuit dernière à Neuville-en-Ferrin dans le Nord. La victime a tenté de se soustraire à un contrôle en démarrant brusquement son véhicule.
L'affaire Pogba et ses nouvelles révélations.
Le champion du monde qui se dit victime d'extorsion de fonds, affaire révélée avec les vidéos de son frère Mathias qui menaçait ce week-end de faire des révélations sur le joueur. Paul Pogba avait expliqué aux enquêteurs qu'on lui avait réclamé 13 millions d'euros, ça on le savait déjà. Mais ce que l'on apprend désormais, Alice, c'est que le joueur dit aussi en avoir déjà payé une partie.
Effectivement, il assure avoir versé 100 000 euros à ses maîtres chanteurs. Il explique qu'en mars dernier, alors qu'il rendait visite à sa famille en Seine-et-Marne, il a été emmené par de vieilles connaissances dans un appartement parisien. Là, deux hommes cagoulés et armés lui ont réclamé cette somme faramineuse de 13 millions d'euros, une somme qu'ils justifiaient par une protection qu'ils apportaient, soi-disant, aux footballeurs stars. Ont assisté à cette scène les vieilles connaissances dont parle le joueur, et Paul Pogba dit aussi avoir reconnu son frère Mathias parmi les personnes présentes à ce moment-là. Il assure donc qu'il a voulu payer, il aurait même souhaité retirer davantage mais n'a pas pu et a finalement obtenu ses 100 000 euros. Tout cela, vous l'avez compris, repose pour l'instant exclusivement sur les déclarations de Paul Pogba aux enquêteurs. Son frère Mathias dément tout formellement sur les réseaux sociaux et promet toujours de mystérieuses révélations.
Merci beaucoup Alice Moreno du service police-justice de RTL. 4 faillites par heure en France, le chiffre est impressionnant. Il nous a saisi ce matin en entendant Martial Youn nous en parler. Et derrière ce chiffre, comme toujours, il y a des vies comme celle de Daniel Sauvêtre.
On était habitué à des hausses de l'ordre de 1, 2, 3, 4%. Mais là, on parle de 1000%. Si nous signons ce nouveau contrat aujourd'hui, en même temps, nous signons notre dépôt de bilan.
Témoignage de ce producteur de pommes recueilli par Agathe Landais qui parle de ces charges qui augmentent des patrons qui sont nombreux à être face à de telles difficultés. Mais qui sont-ils ces patrons touchés, Martial Youn ?
Eh bien, les trois quarts des patrons qui lâchent l'affaire étaient à la tête de toutes petites structures, moins de 3 salariés. Et ça va très vite, le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de 49% au cours du deuxième trimestre. Tous les départements sont touchés. Des petites structures donc qui ne parviennent pas à faire face à tous les retournements que nous avons connus ces derniers mois. L'inflation qui pèse sur la consommation, le coût des matières premières, l'envolée de l'essence suite à l'invasion de l'Ukraine, la pénurie de bois, de métaux, le manque de personnel et les factures impayées, tous ces éléments-là arrivent en même temps et attaquent la trésorerie des petites entreprises. Qui plus est, les URSSAF demandent à nouveau le paiement des charges sur les salaires après la parenthèse des 2 années de Covid. Et puis, il faut rembourser aussi à partir de maintenant les prêts garantis de l'État. Les entreprises les plus fragiles actuellement sont donc celles du bâtiment, malgré parfois des carnets de commandes pleins, mais elles ne peuvent pas honorer les chantiers faute de bras ou de matériaux. Les autres secteurs, le service à la personne, l'hôtellerie-restauration ou encore la logistique.
Merci beaucoup Martial Youn, chef du service économie de RTL.
Ce devait être un des grands moments politiques de la rentrée, le CNR.
Pour Conseil National de la Refondation, le CNR qui doit s'ouvrir le 8 septembre prochain, présidé par Emmanuel Macron. Mais voilà, l'événement a du mal à faire le plein. Thomas Després, bonjour.
Bonjour.
Hier, à son tour, Gérard Larcher, le président du Sénat, a ouvertement décliné.
Oui, le troisième personnage de l'État qui dénonce un contournement du Parlement dans une lettre adressée au chef de l'État la semaine dernière. Et il n'est pas le seul à douter de cette nouvelle idée du président, réunir des politiques, des syndicats, des associations et des acteurs de la société civile. C'est de l'enfumage, lâche un socialiste. C'est un objet politique non identifié à la gloire du président, dit un autre. Et que ce soit à droite ou à gauche, difficile de trouver des gens pour dire du bien de ce Conseil National de la Refondation. Les Insoumis, les Socialistes, les Républicains et le Rassemblement National ont dit qu'ils n'y participeront pas.
Ça fait beaucoup d'absents, mais Thomas, ce que vous nous révélez, c'est que certains ont quand même accepté de participer. Vous avez le casting.
Oui, c'est une information du service politique de RTL. 3 personnalités qui prendront la parole au cours de la journée avec Emmanuel Macron et Elisabeth Borne jeudi prochain. Objectif, dresser le constat de l'état de la France. D'abord, nos finances publiques avec le patron de la Cour des comptes, Laurent Fabius. Les perspectives économiques avec le gouverneur de la Banque de France. Et puis, l'urgence écologique avec une climatologue, chef du Haut Conseil pour le Climat, Corinne Le Quéré. Des interventions qui devraient permettre, selon un conseiller, de mettre tout le monde d'accord sur la situation critique dans laquelle se trouve notre pays avant de commencer les travaux de ce nouveau conseil censé durer plusieurs mois.
Merci beaucoup Thomas Després du service politique de RTL.
Le gouvernement qui en attendant le martèle, il va falloir jouer la carte de la sobriété énergétique cet hiver.
Il compte utiliser plusieurs leviers, parmi eux une baisse de la tension de 230 à 220 volts. Votre grillé irait un peu moins vite le matin, Pascal. À Madrid, on fait déjà beaucoup d'efforts, lumière, chauffage. Cette fois, c'est le gouvernement qui a décrété des restrictions d'énergie. Le reportage dans la capitale espagnole, Diane Cambon.
À 22h pile, les lumières de la majorité des vitrines du centre de Madrid sont éteintes, toutes comme celles de la mairie de la ville ou celles de la célèbre fontaine Cibeles, sous le regard stupéfié des Madrilènes et des touristes.
Madrid ne peut pas se retrouver dans le noir à 22h. Madrid sans lumière, c'est très triste.
La nouvelle loi prévoit aussi un strict contrôle des températures dans les intérieurs. Dans ce bar du centre historique, le patron respecte la limite des 27 degrés pour l'air climatisé.
On est tout à fait prêt. Un rideau pour couper l'air de l'extérieur, deux climatisations qui soufflent de l'air à la verticale et là, la terrasse où l'on ne peut rien faire.
D'autres commerçants sont plus critiques comme ce restaurateur de la Grande Via.
Moi, je trouve ça exagéré. Si tous mes employés sont à l'intérieur, on met la climatisation à 27 degrés, c'est comme si je n'ai pas d'air conditionné.
Les mesures qui ont été vivement contestées par la droite espagnole sont en vigueur jusqu'à novembre 2023.
Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne.
Antoine Caballero est dans ce studio et si vous étiez à l'écoute de la matinale ce matin, vous l'avez peut-être écouté, il était sur sa trottinette, je vous ai écouté dès 5h30, vous étiez porte-maillot, je vous ai entendu à Barbès et c'était formidable sur votre trottinette. D'abord, vous n'êtes pas tombé.
Non, je suis là.
Oui, donc ça c'est quand même important et vous n'êtes pas allé au-delà de 20 à l'heure.
Promis, de toute façon les trottinettes en location sont bridées.
Non mais il est très prudent, oui. Antoine.
J'avais un casque, un gilet jaune, tout.
Mais c'est pas le cas de tout le monde, il suffit de circuler d'ailleurs un peu en ville pour le vérifier. Tout le monde ne connaît pas bien les règles à respecter et chez les plus jeunes, vous l'avez constaté, c'est flagrant, hein, Antoine.
Oui, alors loin de moi l'idée de faire de l'agisme, mais hier soir pour préparer ce fil rouge, je suis allé sur les Champs-Élysées, j'ai croisé une dizaine de jeunes en trottinette électrique de location et quand je demande à Nicolas, 15 ans, s'il respecte les règles...
Ouais, franchement ouais, j'essaie de respecter. Là t'es un peu sur le trottoir. Ouais, là on est obligé. Parce
que tu sais que c'est interdit.
Sur les trottoirs?
Ouais.
Ah non, je savais pas. Ah ouais?
Ouais, je te jure.
Ah bah autant pour moi, bah, je savais pas. Est-ce que tu fais de temps en temps de la trottinette à deux? Ouais. Tu sais que c'est interdit aussi? Non.
Eh ben si mon gars, mais Nicolas est loin d'être un cas isolé. Donc on récapitule pour tout le monde. Interdiction de rouler sur les trottoirs. On roule en priorité sur les pistes cyclables. La trottinette, c'est tout seul, des règles méconnues. Et pourtant, ces adolescents croisés, ils ont conscience du danger. Écoutez Cérine.
En vrai, c'est dangereux quand même, la trottinette, parce que ça va à 20 km/h, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et à tout moment, il y a une voiture, elle passe, elle te shoot facilement, quoi.
Restez prudent donc, et si le casque n'est pas obligatoire en ville, il est vivement conseillé.
Merci beaucoup Antoine Caballero qui ne recule devant aucun danger. Le sport, toujours. Alors que la Coupe du Monde de rugby doit s'ouvrir dans un peu plus d'un an en France, ça tangue du côté de l'organisation. Le directeur général Claude Hatchet a été mis à pied à titre conservatoire. Et cela en raison de pratiques managériales alarmantes. Et puis une bonne nouvelle pour les amateurs de tennis. Ils pourront encore assister demain à une rencontre de Serena Williams. La star américaine a remporté son match hier à l'US Open. Dernier tournoi de son immense carrière. Serena Williams, on le rappelle, c'est quand même 23 victoires en grand chelem. Immense carrière là aussi pour vous, Peggy Broch. On vous retrouve
vous
pour la
Céline.
Météo, je m'emballe jamais. Vous nous avez dit cet après-midi, c'est un peu orageux.
Exactement. Instable, avec un risque d'averse orageuse sur l'est du pays, essentiellement entre la région PACA, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Alpes, la Bourgogne, Franche-Comté, en allant même jusqu'aux Ardennes dans l'après-midi. Les orages seront même plus marqués avec un bon cumul de pluie vers la vallée du Rhône et les Alpes. La Drôme et l'Ardèche sont d'ailleurs en vigilance orange aux orages. Il y a un risque aussi d'instabilité sur les Pyrénées. Et ailleurs, le temps sera plus calme, avec un peu plus de soleil en allant vers la façade atlantique et plein soleil même sur les plaines du sud-ouest. Allez, juste une petite averse possible sur le relief corse. Les températures, de 21 à Cherbourg à 33 degrés à Toulouse, Bordeaux, Cognac, 31 à Nîmes, Bastia et Cherbourg, 29 degrés cet après-midi à Paris et Rennes, 28 à Lyon et Reims et 24 au Havre.
Merci beaucoup, Péline.
La traque aux piscines privées dans une seconde.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Praud. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Sur cette taxe du mois de septembre qui va arriver, je pense qu'on va avoir sûrement la majoration qui sera indiquée, je pense, dans les 150 euros à peu près.
Un témoignage recueilli par nos confrères de TF1. La chasse aux piscines est ouverte. Bercy va généraliser l'utilisation des images satellites et l'intelligence artificielle afin de traquer les contribuables resquilleurs, ceux qui fraudent, qui auraient des équipements ou des extensions non déclarées. Pour en parler avec nous, Damien Robinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire national solidaire Finances publiques. À vos côtés, Arnaud Touche, journaliste au sein du service économie et sociale d'RTL. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
C'est pour vous, c'est vers vous, Arnaud, que je me tourne pour commencer, puisque ça y est, on a un premier bilan de cette traque par satellite.
Oui, 9 départements scannés. Au total, ce sont 20 000 piscines qui ont été détectées, où les gens, effectivement, n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer. Alors, ça va rapporter...
Mais qu'est-ce qu'on doit payer, d'ailleurs, quand on a une piscine ?
Eh bien, on doit payer, justement, pour les mètres carrés des piscines. Alors, en dessous de 10 mètres carrés, ce n'est pas taxable, soyons très clairs. Au-dessus, c'est taxable. Et alors, la loi est très clair à ce niveau-là. Une piscine à boudin, en gros, on va dire une piscine gonflable, ça vous ne payez pas, soyons très clairs. Par contre, dès que vous avez une installation en dur, si par exemple, Pascal, vous avez une piscine enterrée, une piscine carrelée...
Dans
là,
mon appartement, c'est difficile, mais
dans un
pas.
Appartement, non, mais une maison baignoire. Secondaire, peut-être une baignoire. Là, il faut payer pour le coup, et surtout, il faut le déclarer, parce que c'est
et
bien
en fonction
le
des mètres carrés, plus
absolument.
La piscine est grande, plus on paye.
Tout à fait.
Faut savoir... on a un ordre d'idée de ce qu'on paye ?
Alors, en moyenne, une piscine française, elle mesure aujourd'hui 30 mètres carrés, et c'est taxé à hauteur de 200 euros au titre de la taxe foncière.
Par mois. Par an.
Ah non, par an, quand même. Ça ferait beaucoup, par là, an. Quand même, okay. Pour le coup.
Damien Robinet, c'est vous qui avez le mauvais rôle, si je puis dire, dans cette affaire. C'est vous qui rappelez à l'ordre ceux qui auraient oublié, plus ou moins volontairement, de vous prévenir qu'ils s'étaient équipés d'une piscine. D'abord, comment ça marche ? Vos équipes, elles scrutent les photos et elles cherchent des taches bleues. On peut le résumer comme ça ?
Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, ça a été annoncé, c'est un traitement donc par intelligence artificielle et il y a un recoupement automatique qui se fait entre les orthophotos. Les orthophotos, ce sont les photos aériennes prises par l'IGN tous les 4 ans et ce qui a été déclaré par les contribuables et qui sont dans les fichiers fiscaux de l'administration. Et donc, à partir du moment où une tâche bleue serait détectée de manière automatique, il y a un recoupement qui est fait, savoir si ça a été déclaré ou pas. Et dans ce cas-là, il y a les agents de la DGFiP prennent le relais.
Alors, je sais bien qu'on taxe tout en France, mais quelle est la justification intellectuelle de taxer quelqu'un qui a une piscine ? On taxe pas quelqu'un qui a un court de tennis ?
Il y a plusieurs dépendances qui sont taxées sur la taxe d'habitation, taxe foncière, les vérandas sont taxées, les abris de jardin sont taxés, pourquoi pas les piscines ?
Oui, pourquoi pas ? Alors, mais ça, j'ai bien compris, on taxe tout. Mais effectivement, quelle est la justification intellectuelle de taxer une piscine dans un jardin ?
Elle n'est pas taxée en tant que piscine en tant que telle, mais en tant qu'élément d'agrément supplémentaire qui augmente la valeur vénale du bien, de la propriété immobilière. Et à partir du moment où donc, vous avez une piscine, effectivement, supérieure à 10 mètres carrés, elle est susceptible d'être taxée, vous ne l'avez pas dit, mais soit à la taxe d'aménagement ou la taxe foncière ou taxe d'habitation pour les résidences secondaires.
Alors, vous nous disiez effectivement que la nouveauté, c'était la généralisation de ce système d'intelligence artificielle. Ouais. C'est infaillible ou il y a des ratés quand même
Ah non, mais très clairement. Alors, parce que là on présentait un petit peu comment l'expliquait la Direction Générale des Finances Publiques. Nous, à Solidaires Finances Publiques, on pense que l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle entraîne pas mal de biais qui sont faillibles parfois. Il y a eu pas mal de difficultés dans les premiers mois de sa mise en œuvre. Ça avait fait un petit peu les gros titres dans la presse avec des bâches bleues qui avaient été détectées en tant que piscine. Alors, même si maintenant les agents quand même vérifient savoir si c'est une piscine ou pas, il y a quand même des risques de biais algorithmiques et d'erreurs, en fait, de faux positifs, et donc des contribuables qui pourraient se voir envoyer des demandes de renseignements alors qu'ils n'ont pas forcément de piscine.
Et est-ce qu'on a une idée du nombre de piscines comme ça qui ont pu être découverte, si je puis dire, on donnait le chiffre de près de 1500 en Maine-et-Loire seulement.
Ah oui, d'accord. Alors ça va dépendre. Ça va dépendre énormément des départements. Vous doutez bien que dans le 13 ou dans les Ardennes, par exemple, il va pas y avoir le même nombre de piscines. La DGFiP a pas encore communiqué officiellement sur le nombre de piscines par département. Nous, on avait réussi à remonter avec les remontées terrain des agents sur le terrain. Alors les chiffres datent de juin, donc peut-être qu'ils ont été actualisés depuis. Par exemple, il y avait plus de 8000 piscines qui avaient été détectées dans les Bouches-du-Rhône et un peu moins entre 700 et 800 dans le Morbihan, par exemple. Donc, il y a énormément de différences et donc des recettes fiscales qui seront très variables d'une commune à une autre. Parce que les impôts locaux, c'est savoir que la fiscalité sur les piscines, c'est quelque chose qui agrémente le budget des collectivités locales et pas le budget de l'État. Donc, forcément, d'une commune à l'autre, les recettes et l'intérêt ne sera pas le même.
Alors, vous m'avez expliqué effectivement qu'une piscine valorise une maison. Donc, un abri à vélo aussi valorise pourquoi pas une maison. Et demain, on taxera pourquoi pas l'abri à vélo.
Ah bah alors après, si vous voulez refaire toute l'historique de la fiscalité sur la taxe d'habitation, c'est un autre débat. Non, c'est presque hors sujet. Je te prends pour le coup. Mais bien. Bon, ça existe depuis très longtemps. Après, la nouveauté, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui. Vous ne découvrez pas la taxe d'habitation et la taxe foncière aujourd'hui.
Bien sûr. J'imagine. Alors on peut imaginer que celui qui a une piscine ait déjà un revenu important, donc 200 euros par an, si j'ai bien compris, en moyenne. Oui, c'est pas excessif, mais ça reste une taxe en plus.
Ah, c'est une taxe en plus, mais la vraie question, c'est de savoir, on parle de 10 millions d'euros récoltés au total, enfin en tout cas, c'est la DGFiP annoncée sur des recettes fiscales de 10 millions d'euros. Il faut savoir que les taxes sur les impôts locaux en 2020, ça reportait à peu près 60 milliards, donc 10 millions pour 60 milliards, c'est pas énorme.
Mais c'est le symbole, comme je te jure, on taxe les piscines, oui, c'est
mais
les riches.
Mais on rappelle, Pascal, que c'est pas une nouveauté, cette taxe-là.
Non, c'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle et l'arrivée de Google et de Capgemini dans le paysage. La DGFiP a dépensé 24 millions d'euros à minima sur ce projet. Pour l'instant, elle en récolte 10. Voilà.
On n'est pas encore à l'équilibre. Merci beaucoup à tous les deux.
Ça va être de plus en plus dur, effectivement, avec les nouvelles technologies de passer à travers.
Qui entraînent des suppressions de postes. Moins de 900 géomètres sur le territoire maintenant et un plan cadastral de moins en moins précis.
Merci beaucoup, Damien Robinet. Je rappelle que vous êtes secrétaire national solidaire finances publiques. Merci à Arnaud Touche, journaliste RTL, d'être venu aussi nous apporter votre éclairage.
Volodymyr Zelensky, qui est le président ukrainien, fait aussi des films d'animation et on peut aussi y voir un message politique. C'est surprenant. Mais c'est dans Laissez-vous tenter midi dans un instant.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. L'équipe de Laissez-vous tenter nous rejoint. Et quelle chance aujourd'hui, puisque vous êtes deux, Laurent Marsic et Monique Younes.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On va commencer avec vous, Monique, puisque vous êtes spécialiste bande dessinée, entre autres. Vous nous présentez la BD RTL du mois, dernier week-end de janvier. C'est signé Bastien Vivès, que les amateurs de BD connaissent déjà bien. C'est, on peut le dire, une plongée dans le Festival d'Angoulême.
Oui, et c'est la première bande dessinée qui raconte le Festival d'Angoulême de l'intérieur. Les dessinateurs, leurs fans, les fêtes, les dédicaces, les expos. Et c'est surtout une histoire d'amour fulgurante. Le héros de cette bande dessinée s'appelle Denis Choupin. C'est un auteur et un dessinateur connu, il a la cinquantaine, il est à Angoulême pour dédicacer son dernier album,
Opération Hitler. Regardez Pascal en disant ça, la cinquantaine.
Mais oui, c'est votre anniversaire bientôt, Pascal. On va vous offrir la bande dessinée
ça
en
amont.
Ça ne
nous a pas échappé.
Donc, je disais donc que Denis Choupin, qui ne vous ressemble pas, il est à Angoulême pour dédicacer son dernier album, Opération Hitler. Il semble un peu fatigué par cette nouvelle série où il doit dessiner des charniers et des défilés militaires à longueur de journée. Bastien Vivès le montre parfois pris de doute.
Il y a certaines cas, certains moments où il se pose un peu des questions sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il dessine, est-ce que ça a du sens pour lui, est-ce que ça a du sens de juste exécuter les scénarios qu'on lui demande. Et je pense que c'est quelque chose qui parle au dessinateur, à un moment dans sa tête, de se dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Attendez, est-ce que c'est vraiment le dessin que j'aime? Est-ce que je me suis pas endormi à un moment de ma vie, artistiquement?
Et toutes ces interrogations n'empêchent pas Denis Choupin de faire un magnifique dessin à la belle Vanessa quand elle vient lui demander une dédicace pour son mari Marc. C'est très beau, un dessin en train de se faire, lui fait remarquer Vanessa. Alors est-ce que c'est à ce moment-là qu'il tombe amoureux? En tout cas, ils ont les mêmes envies, les mêmes désirs, et la mort. Et l'amour emporte oh là là. Tout, comme vous savez.
Et le mari de Vanessa, pendant ce temps, il est vivant?
Oui, il écume les tables de dédicaces. C'est un fan absolu de bande dessinée, un collectionneur de planches originales. Il est très fier du dessin que lui a fait Denis Choupin. Il va même l'inviter à dîner pour le remercier. Et Bastien Vivès, on a connu des collectionneurs comme Marc.
Marc fait des études d'astrophysique, il a un métier absolument incroyable, il est habillé un peu comme Largo Winch, vraiment c'est un personnage de franco-belge des années 90-80 quoi. Et en fait il aurait rêvé d'être auteur de bande dessinée, vraiment quoi, alors qu'il fait décoller des fusées. Hein. J'en ai vraiment croisé des gens comme ça. Voir ça, parce qu'en fait ils ont tellement aimé la bande dessinée, même si c'est un métier qui peut-être à vivre un peu bizarre et tout ça, on peut fantasmer dessus. Comme si l'auteur était à l'image de ce qu'il racontait. Un peu comme avec les acteurs de cinéma et les rôles qu'ils interprètent. Les gens les prennent pour les mêmes personnes, quoi.
Alors, sur la quatrième de couverture du dernier week-end de janvier, on lit « La BD est un art de petits garçons blessés ». Par quoi sont-ils blessés, ces petits garçons, Monique ?
Alors, vous découvrirez d'abord que ce sont les auteurs et les lecteurs qui sont blessés. Parce que d'après Bastien Vivès, la bande dessinée est un art surprenant et mélancolique. Dernier week-end de janvier le montre bien, il raconte très subtilement la relation entre les dessinateurs et leurs fans, leurs éditeurs, lesquels ont vite fait de devenir des personnages. Il n'oublie pas les attachés de presse dévoués dont il fait des portraits émouvants. Il y a aussi des jeunes aux dents longues qui rêvent de prendre la place des anciens. Et le festival d'Angoulême offre à Bastien Vivès un cadre théâtral parfait. Unité de temps, unité de lieu pour une histoire d'amour fulgurante. Le dernier week-end de janvier est son album à la fois le plus intime et le plus abouti à Vivès. Et c'est aussi la bande dessinée RTL du mois, éditée par Casterman, qu'on va offrir à Pascal, qui adore la bande dessinée.
Je ne suis pas un grand spécialiste.
Eh bien, vous allez découvrir Bastien Vivès, vous allez adorer.
J'en suis sûr.
Merci Monique, merci pour Pascal. Je me tourne maintenant
Vous avez le vôtre qui vous attend
sûr.
À votre bureau.
Moi je suis ravie déjà.
Mais oui.
Merci Monique. Je me tourne vers vous maintenant Laurent Marsic, puisque l'autre événement il est sur plusieurs plateformes de visionnage avec l'arrivée aujourd'hui des nouvelles aventures de Gulliver. Alors c'est un film d'animation très particulier, une super production que l'on doit au président ukrainien Volodymyr Zelensky et que vous avez pu visionner.
Oui, c'est un film singulier à bien des égards. Alors, il a débarqué en août de l'an dernier sur les écrans de cinéma ukrainiens. C'est le long métrage le plus cher réalisé en Ukraine avec un budget de près de 7,5 millions d'euros. Avec des stars qui ont collaboré au film, comme le papa de Vaiana ou encore le scénariste de Kung Fu Panda, des immenses succès du cinéma d'animation américain. On doit effectivement l'idée de ces nouvelles aventures de Gulliver au président Zelensky. Le Gulliver de ce film, bah, c'est tout simplement lui. L'histoire débute par une lettre que reçoit Gulliver, une lettre de ses amis lilliputiens. Il lui demande de revenir les sauver. Après des années d'absence, plus rien ne tourne rond au pays des lilliputiens. Mais quand Gulliver arrive, il n'est pas vraiment celui qu'ils attendaient, le gros géant. En gros, c'est un type normal qui déboule.
Un homme qui devient un géant ne le devient pas simplement parce qu'il a de grosses mains ou une énorme voix. Ce sont ses actes et la foi qu'il a en lui-même qui font de lui un géant. Et tout le monde ici, chacun d'entre vous, est capable de faire des choses incroyables.
Normal aussi, dans sa façon d'être, il détonne dans le paysage.
Il y a quelque chose évidemment qui est de l'ordre de la métaphore, parce que l'histoire de Gulliver racontée ici résonne avec l'actualité.
Complètement, parce que alors, d'abord celui qui menace le pays des lilliputiens, c'est le voisin, le gros méchant, il s'appelle pas Vladimir Poutine mais Blefuscu. La morale de l'histoire, et c'est le fil rouge de ce film d'animation, c'est qu'il n'est point besoin d'être un géant pour réussir les plus grandes actions. Alors, c'est un peu dégoulinant de bons sentiments, on est grand par le cœur, ce qu'ils disent, et en aimant les gens. C'est totalement ce qu'on retrouvait d'ailleurs dans la série télé Serviteur du peuple qui a été diffusée pendant trois saisons à la télévision ukrainienne entre 2015 et 2019. C'est une série où Zelensky était un acteur et qui a considérablement aidé à son élection, à l'élection présidentielle. C'était l'histoire d'un professeur d'histoire de lycée qui devenait malgré lui président de l'Ukraine et qui allait lutter contre les élites corrompues.
Et ben voilà.
Si vous êtes fan des voyages de Gulliver, la version originale de Swift, c'est pas pour vous. Ce qu'on retrouve un peu dans la version ukrainienne, c'est la satire sociale et politique qui est présente aussi dans l'œuvre de Swift. Les nouvelles aventures de Gulliver sortent en vidéo à la demande, type iTunes, YouTube, etc. Si vous voulez vous faire une idée, dès ce soir, et votre opinion, il est diffusé à 21h sur la chaîne Gulli. Il y a une sortie DVD qui est prévue dans une semaine et dont les bénéfices iront, disent-ils, au peuple ukrainien.
Eh bien écoutez, si c'est une actualité qui vous intéresse, celle-là aussi, vous pourrez nous appeler au 3210, puisque l'heure des auditeurs qui vont prendre la parole arrive. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Praud, RTL Midi jusqu'à 13h.